Bonjour, Morgane sur CFM, dans l'émission « Les hommes sont des animaux comme les autres », l'émission mensuelle consacrée aux animaux et aux thérapeutiques naturelles. Ce mois-ci, nous allons partir à la découverte d'animaux insolites, et ensuite je vous présenterai la plante du mois, l'ail, une plante aux nombreuses vertus encore trop peu utilisées. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir ou redécouvrir des animaux insolites. D'abord, allons à la rencontre du dragon de mer, qui pourrait être le résultat d'un mélange entre un hippocampe, un caméléon et une algue. Il existe deux espèces de poissons appelées dragons de mer, le dragon de mer commun ou dragon de mer phylloptère, et le dragon de mer feuillu, aussi appelé hippocampe feuille. Ils sont tous les deux originaires d'Australie, et le dragon de mer feuillu est l'emblème marin de l'Australie méridionale. Ce poisson de la famille de l'hippocampe tire son nom de son apparence, car il possède de longues protubérances en forme de feuilles qui lui servent à se camoufler dans les algues. Il a une belle robe très colorée et variable qui peut aller du vert au rouge en passant par le jaune. Allez voir des photos sur internet, ça vaut le coup. Il peut mesurer jusqu'à 45 cm et contrairement à son cousin l'hippocampe, sa queue n'est pas préhensible. Il ne peut donc pas s'accrocher aux algues pour résister aux courants forts et après des tempêtes, on retrouve souvent des dragons morts échoués sur les côtes australiennes. C'est un animal solitaire qui nage très lentement à l'aide de ses seules nageoires dorsales et ventrales. Les autres nageoires sont absentes, soit très réduites. Il peut se déplacer à plusieurs centaines de mètres dans un périmètre bien défini. Sa lenteur en fait un poisson vulnérable car facile à capturer par les plongeurs irrespectueux qui font du commerce avec leurs cadavres séchés pour les touristes ou encore pour les aquariophiles fortunés. Mais il est aussi utilisé comme ingrédient dans des remèdes soi-disant médicinaux. Il est aussi facilement attrapé par des prédateurs, surtout dans la période qui suit sa naissance, et menacé par la pollution industrielle et le ruissellement des pesticides. À cause de sa vulnérabilité, il a été officiellement protégé par le gouvernement fédéral d'Australie. Tout comme l'hippocampe, il n'a pas de dents et se nourrit donc par succion de crevettes, de larves et de petits poissons. C'est aussi le mâle qui porte les œufs, mais sur la plaque incubatrice située sous la queue qui fournit l'oxygène indispensable et non pas dans la poche ventrale comme l'hippocampe. Après 6 à 8 semaines, éclosent environ 250 bébés dragons des mers feuillus qui vont être totalement indépendants. Seulement 5% environ des bébés vont survivre. Pour continuer dans le monde marin, un autre animal très étonnant, le blobfish. Découvert en 1978, ce poisson abyssal de 30 cm maximum vit très profondément au large des côtes de la Tasmanie et de l'Australie, et quelques-uns ont été observés non loin des côtes californiennes. Ce qui est surprenant, c'est l'apparence de visage humain déformé que ce poisson a vu de face. Son corps est presque sans arête, uniquement gélatineux et couvert de mucus. On le retrouve à des profondeurs où la pression est près de 100 fois supérieure à celle de la surface. Pour y résister, la chair du blobfish est principalement constituée d'une masse gélatineuse dont la densité est plus faible que celle de l'eau, ce qui lui permet de flotter au-dessus du fond de l'océan sans avoir à dépenser la moindre énergie pour nager. Cette chair de faible densité est une alternative à la vessie natatoire présente chez la plupart des poissons de surface, car la trop grande variation de flottabilité, selon la pression des abysses associée à sa faible constitution, mettrait le poisson en danger. Le blobfish a donc peu de muscles, mais ça ne l'handicape pas pour autant puisqu'il se nourrit exclusivement de neige marine, qui est une pluie ininterrompue de détritus organiques tombant des couches supérieures de la tranche d'eau vers les fonds de l'océan. Comme de nombreux poissons des profondeurs, il est souvent pêché accidentellement par le chalutage de fond. Le blobfish est une espèce vulnérable, son rythme de reproduction est lent, son corps est très fragile, mais malheureusement il n'est pas protégé. Maintenant, le plus petit mammifère au monde, la musaraigne étrusque, qui ne pèse que 2 grammes maximum, l'équivalent du tiers d'un morceau de sucre, pour une taille de 3 à 6 cm de long, queue comprise. Elle vit à peine plus d'un an. On la retrouve dans le bassin méditerranéen, en Afrique et en Asie. Elle habite les milieux ensoleillés, plutôt chauds, herbeux ou rocailleux. Elle est omnivore et mange essentiellement des insectes. Elle est très difficile à observer dans son milieu naturel, si bien que l'on en déduit sa présence aux pelotes de régurgitation de la chouette, son principal prédateur, qui contient des poils et des os de ses proies. Les bébés de la musaraigne étrusque ne pèsent que 0,2 g, le poids d'une plume. La musaraigne adulte mange 2 fois son poids en aliments par jour. C'est comme si une personne de 70 kg mangeait 140 kg de nourriture par jour. Aucun autre mammifère ne mange une telle quantité. En fait, cet appétit extraordinaire est dû à sa taille, car plus un animal est petit, plus en proportion sa surface est grande, et donc il est victime d'une très forte fuite calorique qu'il faut compenser pour maintenir sa température autour de 38 degrés. Ce métabolisme ultra rapide génère 1000 pulsations cardiaques par minute, ce qui fait 15 fois la cadence d'un cœur humain, et 850 respirations par minute, soit 56 fois plus vite que les poumons humains. Un autre animal intriguant, la grenouille de verre ou glass frog. Dommage qu'on ne puisse pas passer d'image à la radio parce que cette petite grenouille amazonienne est aussi belle qu'étonnante. Elle est de couleur vert citron et sa particularité est que la peau de son abdomen est translucide. Ainsi, par-dessous, on peut voir le cœur, le foie et d'autres organes. La famille des grenouilles Centrolenidae comprend environ 150 espèces connues. L'étendue de cette transparence peut varier d'une espèce à l'autre, mais certaines sont complètement claires, révélant ainsi toute leur anatomie interne. À ce jour, il n'existe aucune explication précise pour l'évolution de cette complète transparence ventrale, mais différentes hypothèses sont avancées par les chercheurs. Une hypothèse serait que la transparence a évolué pour aider les grenouilles de verre à éviter les prédateurs, en donnant une capacité de camouflage-mimétisme appelée crypsis ou capacité cryptique. La plupart de ces grenouilles étant vertes, elles réfléchissent la lumière presque comme une feuille. Une autre hypothèse serait que ces grenouilles de verre optimiseraient leur homéostasie grâce à des sous-unités cellulaires irisées, réflectrices de lumière, appelées iridophores, qui fourniraient une couche de protection contre la chaleur et la lumière du soleil, permettant à la grenouille de couvrir ses organes séparément. Et pour finir, un animal qui a été élu l'animal le plus étrange en 2008 par la Zoological Society of London sur une liste de 100 animaux, la salamandre géante de Chine. En moyenne, elle mesure 1,15 m pour 25 à 30 kg, mais il y a actuellement 3 spécimens de 1m80 gardés en captivité à l'Académie des sciences de Californie. Cette espèce endémique des eaux douces et lacs de Chine est en voie de disparition à cause de la pollution et de l'aménagement à grande échelle des eaux. De plus, la chair de la salamandre est considérée comme un méfain et est utilisée par la médecine traditionnelle chinoise. La salamandre géante de Chine se nourrit d'insectes, de grenouilles et de poissons. Sa vue est très faible, elle doit se fier entièrement aux signaux sensoriels de son front, elle peut détecter le moindre mouvement dans l'eau. La femelle pond en moyenne 500 à 1000 œufs dans un terrier sous-marin gardé par le mâle qui la chasse car sinon elle mange sa propre progéniture pendant 50 à 60 jours, c'est-à-dire jusqu'à l'éclosion. À la naissance, le petit ne mesure que 2,5 cm. Il ne se métamorphosera en vraie salamandre qu'à l'âge de 3 ans. À la naissance, les larves possèdent des branchies externes, elles régresseront au moment de la métamorphose pour laisser place aux poumons. En fait, la métamorphose est incomplète et les salamandres géantes ne deviennent jamais totalement adultes. Voici la plante à l'honneur est l'ail, qui est un médicament miracle dont les vertus sont trop peu connues et qui est sous-utilisé. Le bulbe d'ail contient des substances minérales et des oligo-éléments, calcium, cuivre, brome, magnésium, phosphore, potassium, sélénium, soufre, zinc, fer et d'autres. Presque toutes les vitamines, provitamine A, B1, B2, B3 ou PP, B5, B6, C et une huile essentielle dont le principe actif, l'allicine, présente des propriétés particulièrement intéressantes. L'ail est un antibiotique naturel qui a une action préventive et curative. Il est à la fois antiseptique, antiviral et bactéricide, grâce à ses composés soufrés très efficaces contre les angines et les maladies bronchopulmonaires, bronchite ou grippe par exemple. Les propriétés thérapeutiques de l'ail. Il augmenterait la longévité. Un sociologue américain de l'Institut national de gérontologie a étudié au siècle dernier la courbe de mortalité chez les personnes de 65 ans et plus et a détecté une particularité étonnante sur plus de 8500 centenaires. Ils étaient pour la plupart de grands consommateurs d'ail. L'ail est un hypotenseur cardiovasculaire. Les chercheurs ont récemment prouvé que l'ail contient de l'ajoène qui, comme l'aspirine, empêche la coagulation du sang et donc apporte une meilleure fluidité et protège le système contre les risques cardiovasculaires. Il diminue donc la tension artérielle et le taux de cholestérol dans le sang. Il est fortifiant. Les pharaons, les grecs puis les romains le faisaient consommer par leurs esclaves et leurs soldats afin de leur donner force et endurance. Il est hypoglycémique. Il réduit le taux de sucre dans le sang. S'il est consommé de façon régulière, il convient donc aux diabétiques. L'ail serait un anticancéreux. De nombreuses revues médicales précisent que l'ail peut réduire plusieurs tumeurs, même malignes. En tout cas, il renforce les défenses immunitaires. L'ail est un puissant antioxydant car bourré d'oligo-éléments. Le sélénium qu'il contient a une action remarquable contre le vieillissement des cellules. Il est anti-allergique. Il est vermifuge, tonique et répulsif contre les serpents venimeux et certains insectes piqueurs. Hélas, il dégage pendant 15 heures une odeur désagréable par la laine et la sueur. Pour récapituler les effets de l'ail, il est antiseptique, antibiotique, antimycosique, anticancéreux, antioxydant, cardioprotecteur, hypolipémiant, c'est-à-dire qu'il baisse le taux de cholestérol, le LDL, et augmente le bon, le HDL. Il est hypotenseur, c'est-à-dire qu'il dilate les vaisseaux, inhibiteur de l'agrégation plaquettaire, expectorant, fortifiant, antiparasitaire et antigrippal. Donc comment est-ce qu'on peut utiliser l'ail ? On peut faire de la teinture d'ail, il faut prendre une tête d'ail fraîche, l'éplucher et couper en deux les gousses dans 1 litre d'eau de vie. On laisse macérer et on dynamise pendant 15 jours au soleil. On filtre et on conserve dans des flacons teintés et on garde au frais. Donc on peut faire en usage interne 3 fois par jour 25 gouttes dans un peu d'eau. On peut aussi faire du sirop d'ail. Donc il faut prendre 20 g d'ail pour 40 g d'eau. On fait bouillir 30 minutes, on filtre et on ajoute le même poids de sucre. Et là, il faudra prendre 3 cuillères à soupe par jour. Et on peut aussi trouver des gélules en pharmacie. Pour les chevaux, avec ses nombreuses vertus et étant naturellement riche en 33 composés sulfureux, 17 acides aminés, germanium, calcium, cuivre, fer, potassium, magnésium, sélénium, zinc et vitamines A, B, C et E, l'ail peut s'utiliser dans bien différents cas. Pour aider le transit intestinal, reminéraliser l'organisme, purifier le sang et stimuler la circulation sanguine, désinfecter les intestins, notamment en cas de diarrhée infectieuse, améliorer le fonctionnement des voies respiratoires, repousser les insectes avec la présence d'allicine, limiter le parasitisme intestinal, action vermifuge douce, renforcer les défenses immunitaires et favoriser le drainage des toxines, favoriser la cicatrisation et la régénérescence des tissus, favoriser la remise en forme, calmer les crises d'eczéma et les allergies, et pour ses effets diurétiques, expectorants et antiseptiques. Donc comment l'ail repousse-t-il les insectes ? L'ail assimilé passe dans le sang, son odeur transpire au niveau des pores cutanés, les insectes suceurs détestent cette odeur et donc le goût qu'elle donne au sang. C'est une des meilleures préventions contre les tiques et donc préventive de la pyroplasmose. Combien peut-on donner d'ail à son cheval ? Donc l'ail semoule pourra être donné à raison de 15 à 50 grammes par jour, mélangé avec la ration. Pour les poulains et poneys, moitié moins. L'ail frais pourra être donné en quantité de 5 gousses par jour maximum, mais les chevaux préfèrent généralement les mélanges tout prêts en version sèche. On peut faire des cures préventives sur 3 semaines. Donc des exemples de pathologies en association avec l'ail. En cas d'infection des yeux de son cheval, on pourra donner de l'ail en voie interne, associé à des lavages ophtalmiques d'infusion de fraises. En cas de dermite allergique, on lavera les zones touchées avec une infusion de menthe qu'on laissera sécher avant d'appliquer une pommade au souci. On donnera de l'ail par voie orale et si le cheval commence à se gratter, on rajoutera de la camomille. En cas de dermatose, gale de boue ou crevasse, on lavera les zones atteintes avec une infusion de souci additionnée de quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, tea tree. On séchera bien et si la zone est très atteinte, on pourra poser un cataplasme de pétales de souci. En interne, on donnera de l'ail et de l'ortie. En cas de douleur articulaire, on donnera de l'ail, des graines de lin, de la verge d'or ou de l'arpagophytum par voie orale et on pourra faire des cataplasmes de feuilles de chou vert sur les articulations douloureuses. En cas de bronchite ou de toux allergique, on donnera de l'ail, du fenugrec et du trèfle des prés en voie interne que l'on complétera avec des inhalations d'huile essentielle d'eucalyptus radié ou globulus. Pour la toux allergique, on utilisera de l'achelée millefeuille. On versera donc quelques gouttes d'huile essentielle ou une poignée d'achillée sur 2 poignées de bon foin au fond d'un seau que l'on remplira d'eau bouillante. On placera le seau aussi près que possible des naseaux du cheval. Pour les chiens et les chats, on pourra utiliser l'ail pour la bonne hygiène intestinale des chiens et des chats. L'ail va faciliter la digestion, purifier le sang, augmenter les défenses immunitaires et rendra le terrain moins propice au développement des parasites. Contrairement aux vermifuges chimiques, l'ail ne détruira pas la flore intestinale. on pourra trouver des préparations à base d'ail ou avec des mélanges d'autres plantes vermifuges sur des sites internet comme www.albertlechien.fr ou www.albertlechat.fr. Il faut bien se conformer au dosage indiqué en fonction du poids de son animal et ne pas donner plus que la quantité indiquée. C'était Morgane sur CFM dans Les hommes sont des animaux comme les autres. Je vous quitte avec une citation de Gandhi. La grandeur d'une nation et son avancement moral peuvent être appréciés par la façon dont elle traite les animaux.
Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres.